L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à tous. Voilà, l'Afrique est de retour. Et c'est Barry-Claude et je me trouve en compagnie de mon compère, comparse Jérémy Zéry. Bonjour Jérémy.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà. Et donc, la personne que nous avons invitée aujourd'hui avec Jérémy, c'est une personne qui n'en est pas à son premier séjour à Montpellier. Hein. Je crois qu'elle a un petit côté quand même. Je pense qu'elle revient nous voir avec plaisir, j'espère. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'activités et beaucoup de choses à raconter. Elle est déjà venue d'ailleurs, mais il y a quand même quelques années. Donc elle va peut-être nous tenir au courant de son actualité. Voilà. Et donc j'accueille avec grand plaisir Christine Cafando. Bonjour Christine.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà.
Bonjour
Jérémy.
Voilà, donc Christine,
bienvenue.
Je vais pas faire comme si on se connaissait pas, parce que tout le monde sait qu'on se connaît très très bien par ailleurs, mais bon, après tu as ta vie et moi j'ai la mienne, et puis au Burkina bien sûr, hein, puisque tu es natif du Burkina Faso, même si tu as vu le jour dans le même pays que Jérémy. Je dis tout là, je raconte tout, à savoir la Côte d'Ivoire. Et voilà, j'aimerais bien que tu te représentes un petit peu malgré tout, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, et puis que tu ailles un petit peu, que tu te diriges vers, que tu nous présentes un peu tes activités, comment est née ta volonté de servir, d'être au service des autres, etc., etc. Voilà Christine, la parole est à toi.
D'accord, merci beaucoup Marie-Claude, merci Jérémy. Mm-hmm. Alors je me nomme Christine Cafando, je viens du Burkina Faso et je suis fondatrice d'une ONG qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des enfants infectés, des femmes enceintes séropositives, du couple mère-enfant et de l'élimination de la transmission mère-enfant. Et c'est une association qui s'appelle Espoir pour Demain, basée à Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième ville du Burkina Faso.
D'accord. Et je dois dire que cette association est née il y a quand même un certain nombre d'années et que, en fait, je pense que tu l'avais créée à l'époque parce que il y avait la pandémie du sida qui était vraiment très très importante, qui avait pris beaucoup d'ampleur en Afrique entre autres, hein, et qu'il n'existait pratiquement rien pour soigner les femmes et les enfants à l'époque.
Oui, effectivement, l'association Espoir pour Demain a vu le jour en janvier 2003, suite à un constat, je dirais, alarmant que nous avons vu sur le terrain. Et ce constat était que les personnes vivant avec le VIH n'avaient pas accès au traitement, il n'y avait pas de traitement en ce moment. Donc, il fallait trouver les voies et moyens pour soutenir les personnes infectées, ne serait-ce que moralement, pour les aider à, s'ils doivent mourir, qu'ils meurent dignement, s'ils doivent vivre, qu'ils acceptent la situation dans laquelle ils sont, et espérer un peu, comme on dit, l'espoir fait vivre, et ces personnes, à travers le soutien d'autres personnes, pouvaient se maintenir en vie. Parce qu'en son temps, la discrimination était tellement forte, et même dans le milieu médical, c'est là qu'a commencé la discrimination. Donc les personnes vivant avec le VIH ne pouvaient pas aller dans les formations sanitaires parce que pas de traitement, avec la stigmatisation, aucun accompagnement. Et c'est comme ça que l'association s'est mise en place pour pallier à cette insuffisance-là et sensibiliser les gens comme quoi le VIH n'est pas une maladie, qu'il faut banaliser, sans faire.
Qui exclut la
communauté, et qu'on peut vivre avec son VIH. C'est vrai qu'on mourait plus qu'on ne vivait, parce que dès que tu attrapes le VIH, le fait qu'il n'y a pas de traitement, tu mourais. Donc du coup, les gens, ils avaient peur. Et le mode de transmission, c'est par voie sexuelle. Donc la stigmatisation sur le fait que peut-être tu serais une personne prostituée, une personne dévergondée, une personne sans dignité, ça fait que tout le monde te rejetait. Alors qu'il y a des personnes qui naissaient même avec le VIH, je parle particulièrement des enfants qui ne connaissent rien de ça, qui sont nés de parents infectés et qui malheureusement l'ont attrapé, qu'on stigmatisait aussi. Et donc du coup, il fallait mettre fin à ça et l'association Espoir pour Demain a été créée justement pour que les enfants puissent avoir accès aux soins et à l'accompagnement qu'il faut. Et c'est un peu les questions de droits humains, si vous voulez, de façon résumée. puissent avoir accès aux soins comme tout le monde, mm-hmm. sans discrimination aucune.
Mais Christine, il y a dans ton histoire, il y a, ça convoque deux questions. La première, c'est au Burkina, comment ça te vient la vocation du jour au lendemain de t'occuper des malades du sida, d'une part, et des enfants purs dans ton association ONG. Est-ce que, avant d'arriver à ce que tu fais, est-ce qu'il y avait des failles dans le système là-bas qui t'ont amené ou bien... Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se met au service des autres. Parce que ça demande de l'énergie, des moyens financiers, beaucoup d'autres. C'est venu comment tout ça?
Il faut dire que d'abord, moi, je suis éducatrice préscolaire de formation. D'accord. La base. Donc, mm-hmm. les enfants, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mm-hmm. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, je me suis prêtée moi-même au dépistage. Et ça n'a pas été facile. Voilà. Et quand je me suis rendu compte que j'étais moi-même personne vivant avec le VIH, mm-hmm. je me suis dit, ben, écoute, pourquoi ne pas s'engager? Pourquoi ne pas s'engager pour pouvoir aider les personnes qui vivent la même situation que moi? Mais il faut dire que ça n'a pas été facile au départ parce que effectivement, comme vous le dites si bien, il n'y avait pas de moyens financiers, il n'y avait pas les moyens sur le plan médical. Et c'est des personnes qui se sont mobilisées comme ça pour dire, écoutez, faisons quelque chose. Et j'étais parmi ces personnes-là. Et donc, du coup, on a eu une place à l'hôpital et on a décidé de témoigner à visage découvert pour dédramatiser le regard des gens, pour dédramatiser le VIH, parce que les gens avaient un regard négatif et ce regard-là empêchait les autres d'avoir accès aux soins. Mmh. Et cet engagement a permis, à travers les témoignages à visage découvert, de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, aujourd'hui, tu peux ne pas l'avoir, mais demain, tu peux l'avoir. Voilà. Ou alors, on peut l'avoir sans le savoir, mmh. ou le devenir sans le vouloir. Et là, il fallait travailler à sensibiliser, et à dire aux gens qu'il faut se méfier, il faut faire attention, il faut utiliser les préservatifs et ne pas rejeter surtout les personnes vivant avec le VIH parce que c'est des personnes comme vous, comme moi. Il faut simplement peut-être les soutenir, les accompagner, les aider à vivre dignement et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui s'attrape en mangeant avec la personne, en dormant avec la personne, et on peut bien les accompagner. Mais on a eu des épisodes d'épidémie, en Afrique particulièrement, et dans le monde, je dirais, de la lèpre, tout ça, où on isolait les gens. Et ça, ça n'a pas vraiment changé notre approche, surtout dans le milieu africain. Un malade, tout le monde s'en occupe. Et pourquoi le VIH va venir nous éloigner de notre famille, de notre communauté, ainsi de suite. Et donc, c'était aussi de dire aux gens que, voilà, le malade n'est pas, n'a pas demandé à être malade, il n'a pas cherché à être malade. Donc, on doit se mobiliser pour leur apporter le soutien nécessaire. Et là, j'allais ajouter que la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait des médecins engagés en son temps. Et je vais citer ici le docteur Savadogo Adrien, François Petitjean, Philippe Vandépère, Dambélé Mathurin, et voilà, j'en passe. Et tous ces médecins-là qui travaillaient dans ce domaine nous ont mieux expliqué le phénomène du VIH et ça nous a permis de dire, écoutez, on va se battre. C'est vrai qu'il n'y a pas de traitement, mais on ne se battait pas pour nous parce qu'on sait que le traitement, c'était peut-être dans 10-15 ans. Mais on se disait que on va se battre, on va laisser l'héritage à ceux qui vont venir après nous. Et si nous, on mourait, ben voilà, les autres vont bénéficier. Et il faut dire que 50% des lits à l'hôpital étaient occupés par des malades du sida. Et ce n'était pas vraiment... aujourd'hui, on en parle, mais en son temps, tu parles en pleurant parce que tu t'es dit, demain, ce serait toi. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est couché, demain, ça peut être toi. Et on se battait justement pour que demain... Si on se retrouve dans l'hôpital, que d'autres personnes puissent s'occuper de nous dignement. Parce que le problème du VIH, c'était la diarrhée. C'est ça qui tuait les gens. Les gens étaient déshydratés, diarrhée. Et alors, quand quelqu'un fait la diarrhée sur lui, un adulte, et qui sent mauvais, personne ne veut s'en occuper. Mmh. Voilà. Donc, du coup, cette dignité-là de laisser les malades dans leur merde, les malades mouraient par, je dirais, le regard. C'est le regard des gens qui tuaient les malades. C'est l'absence des autres qui tuaient les malades. Et donc, le fait qu'on partait vers les malades et qu'on les, on mettait nos gants et qu'on les nettoyait, on les lavait, on les remettait, on les donnait à manger, tout ça, ça leur redonnait leur dignité. Et donc, à travers ça, bon, les gens ont vu qu'on était vraiment très engagés, particulièrement le docteur Saadou Adrien, à qui je tire mon chapeau toujours,
oui.
Parce qu'il a construit tout un système de prise en charge pour lutter contre la stigmatisation et trouver les médicaments avec des partenaires pour les malades. Et j'en suis la preuve vivante.
Alors moi, je vais mettre ma petite goutte là, ma petite... C'est qu'en même temps, votre présence à vous, puisque moi j'ai vu ça aussi, votre présence à vous, les bénévoles concernés par la maladie, etc., ça dédramatisait même au niveau des soignants et des autres personnes. Ça apportait un plus et ça, justement, ça dégageait un petit peu ce côté de méfiance, d'anxiété par rapport à la maladie. Et vous faisiez un très très bon travail sur le terrain aussi, ça, puisque ça donnait plus de visibilité à la maladie et ça familiarisait. Les gens avaient moins peur.
C'est ça, exactement. Voilà,
votre seule présence, déjà, elle dédramatisait les choses et elle le rassurait. Elle était rassurante quand même.
Oui, mais le fait de déjà d'aller sur le terrain, dans la communauté, aller sortir les malades de leur maison, leur donner à manger, les laver, les remettre. On avait des trousses. On avait des kits dans la trousse, là. Et dans cette trousse, il n'y avait que du paracétamol, des gants, du talc. Parce que la plupart des malades, à force de rester couchés, avaient des boutons, des escarres, faisaient des escarres. Donc, il fallait les laver, les nettoyer, mettre du talc, s'ils ont la fièvre, non, du paracétamol. Et on repartait. Et là, la famille qui assiste, que des personnes qui ne sont pas de la famille viennent toucher ce malade, ben, ils changeaient carrément leur regard.
Absolument.
Et maintenant, ils essayaient de prendre en compte. C'est-à-dire qu'on donnait l'exemple de la prise en charge communautaire et sociale dans la communauté. Et donc, ça a permis quand même de lutter contre la stigmatisation, puis le rejet. Je ne veux pas dire que c'est carrément fini.
Non,
aujourd'hui,
on
continue à stigmatiser les personnes vivant avec le VIH. Mais bon, je dirais qu'on s'en fout, quoi. On s'en fout parce qu'il y a des maladies plus graves. Il y a des gens qui meurent, qui ne sont pas infectés, mais qui meurent quand même avant les personnes qui sont infectées. Donc, le VIH n'est plus lié à la mort. Et avec l'avancée aujourd'hui, les ARV qui ont été une révolution, on vit, on se marie, on fait des enfants et sans problème, sans transmission aucune. Donc, on s'en fout des gens qui stigmatisent. C'est eux qui ne connaissent rien. Nous, on sait là où on va.
Mais en fait, je voulais saluer tout de même ton courage. À l'époque, j'imagine, le regard en Afrique, c'est les sociétés traditionnelles. Qu'une femme comme ça vienne témoigner à visage découvert et s'engager auprès des... C'est semblable, c'est assez remarquable. En tout cas, je tenais à louer ce mérite-là, d'une part. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus crédible, tu es mieux placé, tu sais de quoi tu parles. Donc, forcément, quand tu vas témoigner, comme là ou ailleurs, comme tu as dû le faire, bien, ça parle aux gens et ça participe à changer le regard des autres sur la maladie. Parce que, justement, j'allais y en venir, on est société traditionnelle là-bas au Burkina. À travers le rejet, comme tu l'as dit, la stigmatisation, est-ce que c'est, selon toi, lié à la maladie seulement ou bien c'est lié à d'autres facteurs ?
Non. Je pense que la stigmatisation et le rejet étaient forcément liés à la maladie d'abord. Parce que tu sois riche ou pauvre, quand tu as le VIH, tu es abandonné. Donc, ce n'est pas lié à ta classe socio-professionnelle, mais c'est lié au fait qu'on avait peur du VIH-SIDA. Tout le monde avait peur du SIDA. Quand on dit SIDA, c'était l'image de la mort. Voilà, c'était vraiment sans retour. Il n'y avait rien à faire puisqu'il n'y avait pas de traitement. Donc, du coup, tout le monde avait peur. Et on te rejetait, on te stigmatisait. Et même étant bien portant, eh bien, on est stigmatisé parce que les gens te disaient, bon, ceux-là, ils sont sur les pieds, mais peut-être dans un mois, trois mois, ils vont mourir. Alors, il y en a qui ont dit ça, mais ils sont morts avant nous. Et on les connaissait très bien. Voilà, ils sont morts et nous, on est toujours là. Donc, moi, je pense que la stigmatisation, si on est vraiment intelligent, si on est vraiment bien mûri, bien réfléchi, on ne devrait pas stigmatiser, pas seulement le VIH-SIDA, pour toutes les autres choses. Hein. Je pense aujourd'hui aux personnes LGBT qui sont beaucoup stigmatisées. Mais ça, c'est des trucs, pour moi, on ne devrait pas vraiment stigmatiser les gens. Les gens vivent comme ils veulent. Et... maintenant, c'est dans le contexte actuel africain, socioculturel, c'est vrai que c'est des choses qui ont du mal à passer, mais c'est pas seulement en Afrique. Même en Europe, ici, au début, les personnes étaient poursuivies, rejetées et même tuées. Voilà. Et donc, c'est l'évolution des choses et ça a envahi le monde. et nul ne peut contre ça. C'est pas la peine. Qu'on arrête de jouer à l'hypocrisie, qu'on arrête de stigmatiser les gens, d'insulter les gens, ça ne va rien changer. Ce qu'on peut changer, c'est l'accès aux soins pour tous.
Tous, exactement.
C'est tout. Ça, on devait travailler à faire avancer ça. Mais rester là à stigmatiser les gens parce qu'ils sont HSH, parce qu'ils sont lesbiennes, parce qu'ils sont... Qu'est-ce que ça nous rapporte? Et puis, qui sommes-nous d'abord pour juger les gens? Qui sommes-nous pour dire, toi, tu es bien, toi, tu n'es pas bien? Toi, tu as telle façon de faire des rapports, toi, tu as l'autre façon de... Qui sommes-nous? Ah, foutez-nous la paix.
Alors, vous avez vu quand même que quand Christine fait un plaidoyer, hein, vous imaginez, hein, dans une salle bondée, dans un amphithéâtre bondé, ce que ça peut donner.
Oui, non, mais tout à fait ça. Je comprends tout à fait le combat. Là, tu mènes plus de combats plus, sur plusieurs fronts à la fois. Je te souhaite d'avoir beaucoup d'énergie pour mener ces combats-là. Mais en même temps, aujourd'hui, si il fallait faire ne serait-ce qu'un bilan entre le début de... En tout cas, au Burkina, dans ta cause pour les malades du sida, si tu devais faire un bilan, est-ce qu'il y a une évolution, un bilan en termes de nombre de malades soignés, pris en charge, et puis comment ça évolue, le regard des gens aussi, si tu peux nous en dire un peu plus sur le Burkina?
Au Burkina Faso, je peux dire que l'arrivée des ARV a été une révolution.
Oui, et partout, partout quand même.
Oui, partout dans le monde, mais là je parle du Burkina Faso parce que avec l'arrivée des ARV, on ne voit plus de cas de sida. On ne voit plus du tout de cas de sida, sauf ceux qui refusent d'aller au dépistage et se faire prendre en charge, qui arrivent en phase terminale, des fois en phase sida. Sinon, c'est rare maintenant de trouver des cas de sida. Il faut dire qu'au Burkina, il y a environ 98 000 personnes qui sont sous traitement, qui sont suivies. Et parmi eux, il y a environ 9 000 enfants aussi qui sont suivis dans les files actives de la, du pays. Et aujourd'hui, on peut dire que le bilan est bon. Je dis bon, mais pas très bon, parce qu'il y a beaucoup à faire encore. Avec l'arrivée des antirétroviraux, j'ai l'impression qu'il y a un relâchement. Et les gens se disent, voilà, je suis infecté, de toute façon, il y a le traitement, donc ils se laissent aller. Et la jeunesse, que j'appelle la jeunesse sacrifiée, qui n'a pas vu les années du sida avec le squelette, aujourd'hui ne savent pas que... Et ils n'ont pas eu accès à l'information ni aux sensibilisations que nous, on a eues en notre temps. Il y a toute une génération qui a été prévenue, qui a été sensibilisée. Mais il y a 10 ans en arrière... Jusqu'à aujourd'hui, toute cette jeunesse-là, je dirais les jeunes qui ont 20 ans jusqu'à 25 ans aujourd'hui, mais c'est des jeunes qui ne savent rien du sida, qui ne savent rien, qui pensent même que le VIH peut se transmettre à travers les moustiques. Il faut rectifier ça. Et moi, j'appelle cette génération une génération sacrifiée parce qu'on ne les a pas accompagnés assez. Et il y a le rebond du VIH qui est en train de venir. Et je sais qu'au Burkina Faso, on était à 0,6%. Mais là, tout dernièrement, et je mets ça entre guillemets parce qu'il me faut la certitude et la véracité de ce que je vais dire. Je n'ai pas encore vraiment eu la confirmation. Mais un de mes compatriotes m'a appelé pour dire que la prévalence est passée à 1%. C'est-à-dire presque le double. On voit le chiffre là petit, 0,6 ou 1%, mais c'est énorme. Et surtout au Burkina Faso, dans un contexte où, avec l'insécurité, les populations se déplacent vers les zones soi-disant un peu sécurisées. Et là, il y a un afflux de personnes et les gens n'ont plus accès aux soins. Et la prévalence repart parce que bon, c'est du laisser aller des rapports sexuels non protégés. Ils n'ont même pas accès aux préservatifs. Comment ils vont se protéger? Donc, la propagation du VIH est en train de reprendre. Et quand ça, c'est comme ça dans un pays, il faut se dire que dans toute la sous-région, c'est pareil. Et voilà. Et comme je dis souvent, on est tous dans le même bateau. Et la France, et en tout cas l'Europe, l'Afrique, on est dans le même bateau. Si ça revient en Afrique, ça va revenir aussi.
Mais c'est en train aussi un peu de réaugmenter un petit peu. On le dit
en Europe, surtout avec la population migrante, tout ça aussi. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment accès aux soins.
Il y a des gens qui pensent qu'on n'est plus malade parce qu'on a, on a été soigné avec des médicaments.
Et cette population aussi, elle a besoin d'être accompagnée, d'être soutenue en Europe. Il faut ouvrir les portes pour les soigner. Elles vivent ici. Il faut qu'elles aient accès aux soins. Et aujourd'hui, les programmes, en tout cas, pour le peu que je connaisse d'ici en France, il y a beaucoup de programmes qu'ils mettent en place pour atteindre les populations migrantes, notamment au niveau du SIDAction, au niveau de Basiliade. Voici des ONG, Solancy, qui vont vers les populations migrantes pour continuer à maintenir la prévention et sensibiliser et amener les gens au traitement. Mmh. Là, le VIH, les partenaires se font rares. Ils se disent qu'aujourd'hui, la transmission n'est plus de haut grade parce qu'il y a le traitement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a le traitement qui réduit, qui est même là pour la prévention. Mais à combien de personnes ont accès à ce type de prévention-là? Quand je prends la PrEP, par exemple, en Afrique, la PrEP n'est pas assez développée en Afrique. Voilà. Et avec tous les contours d'indication, de contre-indication que ça a, les gens sont même réticents à utiliser la PrEP parce qu'on n'a pas de recul par rapport à ça.
Tu peux expliquer peut-être ce que c'est la PrEP, parce que je pense que les
PrEP, c'est des antirétroviraux qu'on peut prendre avant d'avoir des rapports sexuels avec une personne séropositive ou une personne dont on ne connaît pas la sérologie. Voilà, c'est des traitements préventifs. Et je dirais aussi, c'est comme une prophylaxie. Voilà. Et c'est des traitements qui empêchent le passage du VIH. Voilà. Et ça, c'est beaucoup utilisé en milieu HSH. Et la population, de façon générale, aussi peut l'utiliser si elle le désire. Pour moi, c'est un moyen aussi de prévention, tout comme le préservatif, quoi.
Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu nous dis, c'est que quand tu parles de génération sacrifiée, c'est vrai que moi, la première, j'ai bien vu cette maladie se développer. On voyait des gens, comme tu disais, squelettiques, etc. Enfin, on avait un visuel de la maladie tout en sachant qu'il n'y avait pas de traitement à l'époque. Donc, je pense qu'effectivement, ça marquait les esprits, ça marquait. Et que cette génération-là, en effet, est arrivée alors qu'il y avait un traitement, que donc on n'avait plus ces spectacles de gens très malades ou de gens complètement isolés parce qu'on avait peur de l'attraper, etc. Et donc, ça fait effectivement, ça crée une génération qui est complètement innocente et qui a du mal à se prendre en charge et à se prémunir et à se préserver. Et nous, on a un petit peu l'équivalent aussi, puisqu'il y a beaucoup de jeunes aussi, comme on disait, ils ont des traitements, c'est tellement formidable qu'on a l'impression finalement que c'est... Alors qu'à l'époque, ici aussi, on était terrorisés, ici aussi, on avait la notion quand même qu'on ne pouvait pas. Et donc, tout ça, heureusement qu'il y a des militants, qu'il y a des associations, qu'il y a des gens quand même qui prennent soin d'informer ou de rappeler. Rappeler. Voilà.
Ben, je propose qu'on fasse une pause musicale. Ça laissera à Mme Cofando le temps de rassembler ses idées pour la suite.
Tu nous proposes? C'est toi qui as proposé.
Le morceau qu'on
va écouter.
Vice Pinto. La plus belle voix du monde, il paraît,
voilà,
nous a dit.
Ça. J'adore sa voix.
Taxi, señor, ya me muero.
Et nous voici de retour donc pour l'Afrique dans tous ses états sur Radio FM+, avec le concours de notre super technicien Stéphane et en compagnie donc de Jérémy voilà qui co-anime avec moi et de Madame Christine Cafando qui nous a emportés dans une lutte féroce qu'elle mène depuis des années et nous allons continuer à lui donner la parole. Jérémy ?
Voilà, alors tout à l'heure avant la pause musicale, tu nous faisais un peu état de la situation actuelle au Burkina. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, est-ce que les gens que vous accompagnez là-bas, est-ce que, bon, tout à l'heure tu as dit que la séropositivité a commencé à monter à 1%, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour au moins stopper ou ralentir cette croissance subite?
Il faut rebondir seulement sur la prévention et la sensibilisation. Il faut redoubler d'efforts parce que là, comme j'ai dit au départ, on avait baissé les bras et c'est en train de revenir. La seule façon de stopper et le VIH-SIDA, c'est de mettre en place des moyens de prévention, de créer des clubs de sensibilisation, d'animation, pour permettre aux jeunes de participer. C'est-à-dire le faire aussi avec les jeunes. Voilà, comme on dit, tout ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Donc, il faut responsabiliser les jeunes davantage et leur permettre de prendre leur sexualité en main à travers les programmes de santé sexuelle et reproductive que nous essayons de faire passer dans nos programmes, non seulement au niveau local, mais au niveau national.
D'accord. Donc, après tout, il y a quand même de l'espoir, hein. D'où le nom de l'ONG. C'est ça.
Voilà, on vient rappeler à Christine qu'elle ne doit pas lâcher son bâton pèlerin.
Moi, tant que je ne vois pas le bout du tunnel, je ne m'arrêterai pas. Je serai toujours là pour les personnes qui en ont besoin parce que la chance que moi j'ai eue, beaucoup de gens n'ont pas eu ça. Et cette chance-là, je voudrais bien la partager. Pas pouvoir donner tout ce que je fais à l'international, mais ce que j'obtiens à l'international, que je puisse aussi le faire profiter au niveau local. Et donc, moi, c'est mon cheval de bataille et c'est devenu ma carrière, en fait, le VIH-SIDA. C'est-à-dire, je vais m'éterniser dedans. C'est ma profession. Même si on ne me reconnaît pas, moi, je me dis que c'est ma profession et nul ne peut m'enlever dans ça. Et je veux toujours être près de la population, surtout des enfants, des jeunes filles, pour les aider à surtout ne pas attraper le VIH-SIDA. Et avoir on doit laisser un héritage sans SIDA. On doit laisser un héritage sans SIDA aux enfants, à la nouvelle génération. Et voilà, vivre dans un monde sans SIDA. Et tout ça, c'est l'accès aux soins et les questions de droits humains. Il faut élargir ça. Bon. Voilà.
Est-ce qu'au niveau du Burkina, vous collaborez avec les ministères de la Santé? Est-ce qu'ils vous aident vraiment? Parce que là, vous suppléez un peu, ils ne peuvent pas tout faire, c'est vrai. Donc, c'est à vous de voir comment ça se passe, cette collaboration là-bas.
Oui, oui. Au Burkina Faso, on travaille bien avec les ministères de la Santé et d'autres ministères d'ailleurs, pas seulement la Santé. Donc, on a ce qu'on appelle les CCM qui regroupent toutes les couches de la population où des personnes sont représentées, de la maladie, de l'agriculture, des femmes. En tout cas, il y a tous les personnes les laissées pour compte et le ministère qui porte le plus gros chapeau, qui essaie de dérouler les programmes avec les associations, qui les implique dans les décisions. Et je ne dirais pas que c'est au top, parce qu'eux aussi n'ont pas assez de moyens pour couvrir tout ça. D'où l'intérêt pour nous aussi d'aller vers des partenaires privés pour essayer de ramener un peu de ressources pour soutenir les actions du gouvernement.
Voilà, donc je pense, Jérémy, qu'on va devoir malheureusement arrêter. Le temps qui nous est imparti par la radio est écoulé. Voilà, et donc je pense qu'on est d'accord pour réinviter Christine Cafando la semaine prochaine.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà, merci beaucoup Christine de ta venue et de ton témoignage passionné et passionnant. Merci encore à la technique, à la radio de faire la part belle à l'Afrique dans cette émission, à FM+. Donc, bon Jérémy, on se dit au revoir.
On se dit au revoir
et on se, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir à tout le monde. Au revoir.
L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.